Vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous, eh bien c'est l'émission de la rentrée après des vacances que je pense ont été reposantes pour tous. Et aujourd'hui, on va reprendre une thématique qui a déjà été abordée sur la responsabilité de l'artiste d'une manière générale et de l'architecte en particulier, l'architecture étant, on peut dire, la colonne vertébrale de cette émission, mais avec des digressions sur les champs qu'on peut dire annexes ou peut-être même plus importants tels que l'urbanisme ou la peinture et la sculpture, ce qui nous est arrivé assez souvent. Alors, c'était une réflexion par rapport à Facebook. Facebook, c'est toujours intéressant parce que ça permet de voir l'esprit du temps et la parole libre, comme je parle de Facebook, enfin, c'est la même chose sur tous les réseaux. Mais dans le cas présent, il s'agit d'un groupe qui était fondé par Yo-Yo Mag. Alors Yo-Yo Mag, c'est la petite fille d'Adrien Mag. Vous avez tous entendu parler, je pense, de la fondation du même nom, qui est à Saint-Paul, enfin Saint-Paul-de-Vence, dit-on comme dans la chanson de Charles Trenet. Donc c'est une fondation qui a été créé dans les années 60 par ce galeriste et qui est un lieu magnifique sur une colline avec des bâtiments qui ont été réalisés par l'architecte espagnol José Luis Sert. José Luis, on dirait en bon espagnol. Alors, la question que posait, d'une manière assez naïve d'ailleurs, la petite fille d'Aimé Mag, elle s'interrogeait sur le choix de cet architecte en disant, à ce moment-là, Le Corbusier était l'architecte le plus connu au monde et en France, et la figure, on peut dire, importante du monde de l'art de son grand-père, eh bien, elle s'interrogeait sans avoir la réponse de pourquoi n'a-t-il pas choisi Le Corbusier et a-t-il choisi cet architecte qui était bien moins connu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est au-delà de la question, c'est les réponses qui ont été faites d'une manière unanime et avec une rapidité incroyable de tous les internautes qui sont en fait choisis dans ce milieu, dans ce groupe, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à l'art et donc aussi à l'architecture. Et là, c'était l'unanimité contre Le Corbusier. Alors c'est un thème que j'ai déjà, on peut dire, commenté, mais là c'était très étonnant parce que c'est vraiment une actualité immédiate et de voir surtout comment les campagnes dont j'ai déjà parlé dans d'autres émissions de dénigrement de Le Corbusier ont pu porter leurs fruits. Alors, ce qui était dit, c'était heureusement, ça aurait été un bâtiment horrible si Le Corbusier l'avait fait. Et puis, alors ça, c'est la moindre des choses. Mais ensuite, c'était ce nazi, ce fasciste, ce voleur de projet, à Charlotte Perriand. C'est le responsable des grands ensembles. Enfin, passer toute la panoplie et il n'y avait pas un avis qui était contradictoire par rapport à cette mêlée ouverte. Alors, j'ai fait un commentaire, mais je vais vous développer, sur lequel, évidemment, je n'ai pas eu de réponse, comme quoi il est évident que quand il n'y a pas de contradiction, il y a le libre cours, on peut dire à la haine qui se déverse, et surtout qui ne fait que répéter des choses qui ont été lues et sans qu'il y ait eu de véritable débat. Alors, ce que j'ai dit, c'est que l'architecte, certes, était moins connu, bien moins, mais qu'il était tout d'abord un assistant de Le Corbusier, enfin, il avait été un assistant de Le Corbusier, et que son architecture était reprise dans le vocabulaire de Le Corbusier. José Luis Sert est un catalan, enfin un espagnol, disons, catalan, qui est parti au moment de la guerre civile et s'est réfugié aux États-Unis. Et comme il y a eu de nombreux architectes étrangers, et notamment les réfugiés du Bauhaus, il y a eu également quelques architectes espagnols, dont lui, et il a eu un poste important. Pour relier au Bauhaus, puisqu'il s'agit quand même d'une époque différente, il a pris la succession de Gropius à la direction de l'école d'architecture d'Harvard, ce qui n'est pas une mince chose quand on sait que Harvard est considérée comme la première université du monde et elle fait partie des grandes universités américaines et son département d'architecture également. Donc, l'architecte, au-delà d'avoir été un enseignant, certes, a été un architecte installé donc à Cambridge, là où est Harvard, et il a beaucoup construit. Or, il a construit des bâtiments qui étaient liés au campus et dans un vocabulaire qui était tout à fait, on peut dire, le style de Le Corbusier dans la seconde période dite brutaliste. C'est lui-même qui avait d'ailleurs inventé ce mot, qui a été repris par la suite. Ces bâtiments sont des bâtiments remarquables. Il faut dire aussi que la relation avec Le Corbusier n'avait jamais cessé, puisqu'il a fait réaliser sur ce campus dont je vous parle, le campus d'Harvard, un bâtiment, un petit bâtiment, mais qui est un bâtiment tout à fait intéressant entre deux rues, qui est un bâtiment qui s'appelle le Carpenter Center, qui est un bâtiment dans lequel il y a des expositions et des travaux d'artistes, mais qui est lié à l'université d'Harvard. Et c'est le seul bâtiment que Le Corbusier a réalisé aux États-Unis, pour vous dire, donc, non seulement l'affiliation, mais aussi les échanges au niveau humain permanents qu'il y a eu entre ces deux hommes. Voilà donc un peu ce qui est fâcheux, c'est que on puisse avoir des mots d'oiseau, des choses qui sont de dénigrement complet qui sont complètement faux par rapport à l'histoire de l'architecture telle que je viens de vous la narrer et surtout sur un plan humain, la détestation qui a été faite sur Le Corbusier, et on va en parler après la pause musicale. J'en avais déjà parlé dans d'autres émissions. C'était, on peut dire, d'abord une campagne qui avait été faite pour le 50e anniversaire de sa mort, au moment où on célébrait justement ce grand architecte. Il y a eu trois ouvrages qui ont été publiés. C'est pas le hasard, et on va, dans la deuxième partie, essayer de réfléchir du pourquoi et de comment de cette stratégie de diabolisation de Le Corbusier. Il y a eu, et ça pour raviver les plaies, en début d'année, de cette année, une émission sur France Inter, qui est une émission assez suivie, qui s'appelle « Affaires sensibles » et qui s'intitulait « Le Corbusier fasciste ». Ce n'était pas « Le Corbusier fasciste » avec un point d'interrogation, c'était « Le Corbusier fasciste » avec un point d'exclamation. Donc là, on a eu un dialogue entre un des auteurs des trois livres en question, qui s'appelle Xavier de Jarcy, qui est journaliste à Télérama. Et là, on a eu à peu près demi-heure de délire, sans contradiction. On se renvoyait la balle pour essayer de noircir le plus possible. Bon, on va marquer une pause musicale et puis je développerai ça dans la seconde partie de l'émission. Nous reprenons sur Le Corbusier et la campagne de dénigrement qui a été faite et qui continue. La preuve, donc, c'est qu'elle porte ses fruits, puisque on a eu la salve de critiques dont je vous ai parlé précédemment. Alors, la question que l'on peut se poser, effectivement, c'est l'attitude de Le Corbusier, puisque ça a été le cœur de l'histoire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on sait que c'est un sujet qui, en France, est un sujet difficile d'aborder et qui se découvre petit à petit, et d'ailleurs, dans les... semaine précédente, il y a eu notamment une enquête sur Le Point pendant ses vacances, sur la collaboration et des documents qui ont été mis à jour. Vous voyez, on est quasiment plus de 80 ans après ces événements et on a trouvé les archives du consulat d'Allemagne et il y avait, d'après cet article du Point, que vous pouvez retrouver sur Internet, je pense, des soirées de bamboche avec, dans cette période de pénurie d'alimentation, il y avait la fine fleur des artistes français, du cinéma, du théâtre, également des industriels avec les officiers nazis. On n'était pas uniquement entre gens du même monde. On avait donc les responsables nazis de l'occupation, c'est-à-dire ceux qui organisaient la répression en France et toutes les mesures coercitives qu'il y a eu. Et donc, effectivement, il y avait toute une haute bourgeoisie qui bénéficiait des avantages de cette collaboration, donc qui était régulière et on peut dire sans scrupules. Alors, Le Corbusier, ce qu'on lui reproche, c'est que Le Corbusier a essayé, comme tout homme d'affaires qu'il était forcément en tant qu'architecte libéral, il n'était ni enseignant, ni n'avait aucun poste officiel de conseil, ni rien. Il avait essayé auprès de Mussolini, auprès des communistes, donc il a été taxé chaque fois de fasciste avec Mussolini, de communiste avec les soviétiques, et également donc au début de la collaboration, au début donc de l'État français, on est en 41 et 42, il va à Vichy, mais enfin il est à Vichy et il attend et en fin de compte on le balade et on ne veut pas de lui pour des raisons objectives. D'abord il ne faut pas oublier que l'architecture moderne et l'art moderne, Le Corbusier était donc en tête de pont de cette avant-garde européenne, et cette avant-garde européenne, elle était détestée par les nazis, et de ce fait les collaborateurs n'étaient pas très bien placé pour pousser cela. Et je ne pense pas qu'ils en aient envie, parce que la France de Philippe Pétain était plutôt dans le néo-régionalisme, ruralisme, que l'architecture moderne de Le Corbusier. Il en était de même en peinture, et on sait les fameuses expositions qui ont tourné en Europe, mais surtout en Allemagne, de l'art dégénéré, où tous les mouvements d'art moderne étaient ridiculisés et montrés comme étant le fait de dégénérer. Donc, il était assez peu probable que Le Corbusier ait du succès, donc ça se passe assez rapidement, il n'y a aucune commande, et on a donc en 42 Le Corbusier qui écrit un article dans une revue qui est publiée, où il parle de l'échec et d'un souvenir de ce qui s'est passé. C'était pour lui très douloureux, parce qu'en fin de compte il a été rejeté. De ce fait, il n'est absolument pas un collaborateur. Il ne faut pas oublier que la même année où Le Corbusier quitte Vichy. Il quitte Vichy, mais il n'a, comme je vous disais, il n'a jamais collaboré. Il est resté dans la salle d'attente. Mais il y avait François Mitterrand qui recevait en décembre 1942 la Francisque. Et ça, c'est des choses que l'on a découvert peu après. Si on veut ressortir tout ce passé, je crois qu'il y a également, là, c'était dans l'Express ou dans un ouvrage qui vient d'être publié sur les femmes de l'aristocratie française dans leur collaboration, mais alors là, qui était avec la milice et dans les formes les plus cruelles de ce que l'on a pu voir dans la collaboration. Si vous vous souvenez du film de Louis Malle, La Combe Lucien, il y a quelques scènes qui sont assez difficiles à regarder, de torture de cette époque bien triste et sinistre. Donc, on a aussi dit qu'il était antisémite, et on a ressorti dans sa correspondance, il a livré toute sa correspondance à la Fondation Le Corbusier, et donc les chercheurs, historiens, peuvent puiser dans cette correspondance qu'il aurait pu faire partir. Or, il y a une lettre à sa mère où il dit, je vous le cite de mémoire, les Juifs passent un mauvais quart d'heure et c'est douloureux pour eux, mais est-ce qu'ils aimaient beaucoup l'argent, est-ce qu'ils ne l'ont pas un peu cherché? Alors, il faut dire qu'à l'époque, on ne savait absolument pas, on ne savait rien des camps de concentration. D'ailleurs, on ne saura des camps de concentration que bien, bien plus tard. Moi-même, je l'ai appris qu'en regardant adolescent Nuit et brouillard d'Alain René à la télévision. Et on a appris très tard cela. Donc il est évident qu'en 1942, tout le monde ignorait cela et on n'avait aucune idée du sort. Donc tout ça me paraît bien excessif et ne correspond pas à la réalité, sachant que chercher dans la collaboration, comme je vous disais, des artistes, des industriels, des hommes politiques, on aurait encore, je crois, beaucoup de choses à apprendre. Donc, la question qui est posée au-delà de ces anecdotes assez sordides, est-ce que Le Corbusier était, on peut dire, d'idéologie fasciste, même si on met à part les faits de collaboration qui ne sont pas avérés? Alors, justement, dans cette émission de France Inter, qui s'appelle Le Corbusier fasciste, vous pouvez la retrouver sur internet, c'est extrêmement facile, c'est une émission assez longue d'ailleurs, et là on a des propos qui sont assez étonnants. Alors notamment les deux journalistes qui devisent et avec une indignation non feinte, me semble-t-il, disent: mais Le Corbusier était un fasciste parce que il employait le mot de ordre, et ordre, c'est fasciste. Alors ça, c'est quand même assez, je ne sais pas si c'est rigolo ou si c'est triste, mais le mot ordre est un mot récurrent dans l'architecture. On parle les ordres, d'abord, ce sont de l'architecture classique, ce sont les colonnes doriques, ioniques, corinthiens, on appelle ça les ordres classiques. Et le mot ordre est repris, alors il est repris à la fois, on peut dire, dans la religion. Il ne faut pas oublier, ou plutôt il faut rappeler que Le Corbusier, même si on en a très peu fait état, mais il est issu d'une famille protestante, calviniste, qui est encore une forme plus, on peut dire, combative et sévère du protestantisme, et qu'il y a un côté, on peut dire, prédicateur d'un monde qui va être justement ordonné par Dieu. Et le mot ordre revient justement à la fois dans la religion, mais aussi au-delà des ordres classiques. Il est lié, on parle en architecture, on parle d'ordonnancement, ce qui veut dire que l'architecte, et je vous en parle puisque c'est mon métier, il prend les éléments épars et désordonnés. Par exemple, on va prendre l'exemple le plus simple, c'est des gens qui veulent construire une maison, ils vont donner une liste de tous leurs choix, qui va être un cellier, moi une cave, ou une buanderie, une salle de jeu, une salle de sport, etc. Et tout ça sans en désordre. Et le rôle de l'architecte, c'est de l'ordonner. Donc c'est de faire les parties de vie, les parties de nuit, puis de transformer cela en un ordre architectural. Un ordre architectural qui va être justement lié à des dimensions répétées qui vont faire qu'il y aura un équilibre visuel. C'est-à-dire que l'ordre est un mot permanent. Alors, on reproche à Le Corbusier également de parler d'ordre social. Alors c'est vrai qu'effectivement, le mot ordre social revient, mais je veux dire, c'est le propre de la politique. La politique, c'est justement de combattre le désordre, l'insécurité, et de le transformer par un ordre. Mais cet ordre, c'est l'ordre démocratique. Ce n'est pas l'ordre fasciste. Qui l'ordre fasciste, ce n'est pas un ordre. C'est un et les nazines, c'était pas l'ordre, c'était le pouvoir des Aryens qui pratiquaient le massacre de masse sur les populations qui n'était pas digne d'être arien. Et comme vous savez, c'était d'abord les Juifs qui ont payé le lourd tribut, mais c'était aussi les Gitans, ça a été aussi les francs-maçons, les homosexuels. Enfin, c'est-à-dire que c'était l'eugénisme pratiqué en grande échelle et qui était totalement différent de l'hygiénisme qui est aussi reproché dans cette émission, où on dit « Ah, mais il était hygiéniste et il était donc s'il était hygiéniste, il était eugéniste. » Alors les deux mots sont tout à fait différents. L'hygiénisme, c'est dans une époque où il y avait beaucoup de tuberculose, il y avait un habitat insalubre avec des conditions de logement qui étaient tout à fait sordide et inacceptable pour, évidemment, pour les classes ouvrières, pour les gens modestes. Et le programme du Front Populaire quelques années avant, eh bien, le programme du Front Populaire avec Henri Cellier pour le logement, ou Léo Lagrange, vous le savez aussi, qui a introduit le sport. Et effectivement, Le Corbusier et ses amis Winter et Pierrefeu, dans la revue dont je vous parlais, développent le programme qui est une continuité du programme hygiéniste du Front Populaire. Et cela, évidemment, n'a rien à voir avec l'horreur nazie. Voilà, donc je conclue sur cela, et rappelez-vous qu'il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux pour faire des attaques ad hominem sans savoir et sans se renseigner, c'est dangereux. C'était Ouvrirons-nous demain. Je remercie Sacha, qui est le nouveau technicien de Radio Esprit Occitanie, qui est à la technique. Et je vous dis à la semaine prochaine.